Mark Finlay racontait ce qui lui est arrivé il y a de nombreuses années en arrière, lorsqu'il était pasteur dans l'État du Tennessee. Il visitait une famille à qui il donnait des études bibliques, et un certain jour, dans cette famille, il y avait un visiteur, un monsieur qui disait « Gloire à Dieu, j'ai été guéri !»« Gloire à Dieu, j'ai été guéri !» et qui fumait en même temps un gros cigare. Alors le pasteur Finlay lui a demandé « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« Gloire à Dieu, j'ai été guéri !» Il dit « Mais guéri de quoi ?» Et cet homme lui a dit « J'ai été guéri du cancer du poumon. » Alors le pasteur Finlay lui a demandé « Mais expliquez-moi ce qui vous est arrivé. » Cet homme lui a dit « Écoutez, il y a 6 mois environ, j'avais des difficultés, je ne me sentais pas bien, j'ai été voir le médecin, il a fait des radios et il s'est rendu compte qu'il y avait une tache sur mon poumon. J'ai eu des traitements et dernièrement on vient de refaire un rayon X. » Et il n'y a plus de tâche. Gloire à Dieu, je suis guéri. » Alors le pasteur Finlay lui a dit « Oui, mais qu'est-ce que vous faites alors à fumer ce gros cigare maintenant puisque vous êtes guéri ?» Cet homme s'est tourné vers lui et lui a dit « Jeune homme, car à l'époque il était encore un jeune homme, si tu as la foi, tu peux fumer tous les cigares que tu veux, le cancer n'aura pas d'effet sur toi. » Il avait une curieuse compréhension de ce qu'est la foi. Est-ce que c'est ça la foi de la Bible? Beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'avoir la foi, c'est croire à un ensemble de croyances. On y croit et puis c'est fini, on ne s'en occupe plus. D'autres pensent que c'est avoir une assurance tellement profonde, intérieure, qu'on peut demander à Dieu ce qu'on veut, si on est sûr qu'on va l'avoir, on l'aura. D'autres pensent que c'est une conviction qui oblige Dieu à faire ce qu'on lui demande. La foi, certains vont dire « Ah, vous avez de la chance, vous l'avez la foi, moi je ne l'ai pas. » Et en fait, ils sont bien contents de ne pas l'avoir, parce que s'ils l'avaient, ils n'aimeraient pas devoir faire ce que nous faisons. Jésus a parlé à ce sujet dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18. Il dit quelque chose d'inquiétant. Mais j'aimerais le relire avec vous dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18. Au verset 8, il est écrit ceci. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Il est question là de la conclusion d'une parabole. Et il continue en disant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» On a du mal à comprendre ce passage parce que lorsqu'on regarde autour de nous dans le monde, on a l'impression d'avoir un regain de religiosité dans le monde. On a l'impression de voir la chrétienté se réveiller. On a l'impression que de plus en plus de gens, même hors de la chrétienté, vivent un renouveau de leur foi. Mais ma question est de savoir s'il s'agit de la foi biblique ou d'une autre sorte de foi. Vraie foi ou fausse foi? Pour savoir ce qu'est la foi biblique, il nous faut aller dans les Écritures. Et je vous propose de prendre un passage dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 11, ce fameux chapitre où l'apôtre va présenter toute la galerie des héros de la foi. Et j'aimerais regarder ce texte avec vous quelques instants. Ce texte commence par une définition de la foi qui ne semble pas très claire à prime abord. Hébreux, chapitre 11, verset 1er, dit ceci. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le mot qui est employé au début de cette définition est en fait le mot « substance ». La foi est la substance des choses qu'on espère. Substance, sub, dessous, se tenir. La foi, c'est finalement ce qui tient par-dessous tout l'édifice religieux qu'est le nôtre. C'est la fondation, le fondement, si vous voulez. Tout repose là-dessus, nous dit le texte. Mais lorsqu'on suit la lecture, on est étonné de ce qu'on lit. Regardez avec moi. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 4, il est écrit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Abel a la foi, et à cause de sa foi, il meurt. Lisons la suite. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Mais c'est par la même foi. Par la foi, Abel meurt. Par la foi, Enoch vit. Et pour toujours, il est enlevé au ciel. Alors on va continuer à lire au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, par la foi, va construire une arche pendant 120 ans, au même endroit, dans le même village, sans avoir une seule goutte d'eau. Par la foi, il va rester là où il est. Mais la suite du texte est encore surprenante. Si vous avez l'impression de ne plus savoir ce qu'est la foi, lisons la suite. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Par la foi, Abel meurt. À cause de sa foi, Enoch vit. À cause de sa foi, Noé reste là où il est et il construit une arche. À cause de sa foi, Abraham part. Mais continuons à lire. Verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et en effet, Sarah, à l'âge de 90 ans, va enfanter. Ça, c'est véritablement un miracle. Par la foi, nous dit le texte. Par la foi, Sarah enfante. Mais un petit peu plus loin, au verset 17, il nous est dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Alors par la foi, Abraham va mettre à mort celui que Sarah a eu par la foi aussi. Quelle foi ! Continuons à lire. Hébreux 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. La foi de Joseph. Joseph, par la foi, a été emmené en Égypte et y est devenu riche. Que nous dit le texte ? Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché et regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Par la foi, Moïse, lui, sort de l'Égypte et devient pauvre. Par la foi, Joseph va en Égypte et devient riche. Mais continuons. Toujours dans Hébreux, chapitre 11, verset 33. Hébreux, chapitre 11, verset 33. Alors, il est question de plusieurs personnages qui sont mentionnés, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérissant de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Par la foi, voilà tout ce que ces gens ont fait. Ils ont été vainqueurs sur toute la ligne. Mais lisons encore un petit peu plus loin, par exemple verset 36. D'autres, dit le texte, subirent la moquerie et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent, çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Par la foi, certains sont vainqueurs, délivrés par les anges de la mort et de la persécution. Et par la même foi, d'autres sont persécutés, maltraités, mis à mort, sciés. Alors la foi, c'est quoi ? Est-ce que les uns ont eu la foi et pas les autres ? Le texte nous dit que ce sont tous des gens qui ont été animés d'une foi digne d'être remarquée jusque dans les derniers temps. Mais pour les uns, c'était la vie, pour les autres, c'était la mort. Abel, par la foi, meurt. Hénoc, par la foi, vit. Abraham, par la foi, part. Noé, par la foi, reste. Sarah, par la foi, a un enfant. Par la foi, Abraham le sacrifie. Joseph va en Égypte et devient riche. Moïse sort de l'Égypte et devient pauvre. C'est quoi la foi? Que devient la foi biblique dans toute cette affaire? Le message de ce texte me paraît finalement clair. Il nous enseigne par les contrastes ce qu'est la vraie foi, la foi biblique, la foi en Dieu. C'est cette assurance que l'on peut faire confiance à Dieu dans ce qu'il demande et de lui obéir, sachant que nous n'avons pas à nous préoccuper des conséquences parce qu'il est lui-même un Dieu d'amour. En effet, la foi biblique présentée dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est la foi de ceux qui ont obéi sans regarder aux conséquences. Et la foi ne sera pas ici dans ce contexte question de savoir s'il faut vivre ou s'il faut mourir, s'il faut partir ou s'il faut rester. La question n'est pas là. La question est de donner gloire à Dieu dans ce que nous faisons en obéissant à ce qu'il place devant nous. Et s'il vous demande de partir, ne restez pas. S'il vous demande de rester, ne partez pas. Finalement, cette foi a comme objectif de donner gloire à Dieu dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande. Le reste, c'est son département, c'est sa responsabilité. Il est évident qu'on ne peut avoir cette confiance qu'envers un Dieu que l'on connaît, un Dieu avec qui on a vécu une expérience qui nous permet de savoir que c'est un Dieu d'amour, un Dieu dont l'amour est si grand qu'il est plus intéressé à nous donner la vie éternelle qu'une vie remplie ici-bas de ce que le monde peut encore nous offrir. Son amour l'a poussé à faire ce qu'il fallait pour assurer la vie éternelle à tous ceux qui le veulent. C'est ce même Dieu qui nous demande de lui obéir, de lui faire confiance et de lui laisser la responsabilité de toutes les conséquences. Il faut autant de foi pour rester que pour partir. Il faut autant de foi pour vivre que pour mourir. Il faut autant de foi pour rester dans une église avec 15 membres et être là un disciple de Jésus-Christ que pour partir à l'autre bout du monde comme un missionnaire et prêcher à 1000 personnes. Il faut autant de foi pour l'un que pour l'autre. Il faut surtout beaucoup de foi pour être capable d'accepter ce que le Seigneur nous demande et de lui en laisser les conséquences. La foi, finalement, c'est très proche de l'obéissance. Et on comprend à ce moment-là beaucoup mieux l'Ancien Testament. Beaucoup de gens aujourd'hui sont scandalisés de voir que finalement l'Ancien Testament nous présente un Dieu qui demande que, pour être sauvé, on obéisse aux commandements. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont dire l'Ancien Testament, c'était pour les autres là-bas, les Juifs autrefois. Nous avons le bon petit Jésus aujourd'hui. Mais c'est une grave erreur, parce qu'en réalité, ces gens dans l'Ancien Testament exprimaient leur foi, leur confiance, leur vraie foi, par leur obéissance. Obéissance à ce que Dieu leur demandait de faire et qu'ils ne comprenaient pas parfois. Mais obéissance quand même. En réalité, le Dieu de l'Ancien Testament, qui sauvait ces gens de l'Ancien Testament par la foi tout autant que nous, nous demande à nous tout autant d'obéissance qu'à eux, c'est-à-dire tout autant de foi, de confiance finalement. Seulement, associer foi et obéissance n'est pas très à la mode. Regardez par exemple dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, Jésus a là une parole très forte. Évangile selon Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, vous connaissez ces paroles. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui vivez, dit le texte littéralement, sans loi, dans la désobéissance finalement. Un texte dramatique, parce que ces gens viennent avec beaucoup de choses à présenter à Dieu, de bonnes œuvres qu'ils ont accomplies en son nom. Nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et Jésus leur dit, mais lorsque vous faisiez tout cela, je ne vous connaissais déjà pas. Autrement dit, ces actions-là n'étaient pas le produit d'une foi biblique. Foi et obéissance. Mais alors, comment peut-on obéir? Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, beaucoup de gens disent, « Oh, vous avez la foi, c'est bien pour vous, moi je ne l'ai pas, ben tant pis pour moi, Dieu la donne à qui il veut. » Vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous voulons que notre foi augmente, étudions sa parole. La recette, j'allais dire, est fort simple. Et en réalité, la mentalité d'aujourd'hui, la mentalité même que nous retrouvons dans le christianisme d'aujourd'hui, ne facilite pas le travail de Dieu pour créer dans nos cœurs une vraie foi, une foi biblique. En effet, dans le monde d'aujourd'hui et même dans le monde chrétien d'aujourd'hui, il y a une sorte de nouvelle loi qui dit « Je ne crois que ce que je vois ». Et on va essayer de développer une espèce de religion très, très cartésienne, très scientifique. C'est la raison pour laquelle on entend aujourd'hui beaucoup de gens dire « Mais vous croyez encore de la Bible, vous, mais c'est écrit par des hommes, ça, c'est pas scientifique, ça. » Mais tout en disant cela, ils sentent en eux le besoin d'une expérience particulière et ils vont rechercher à côté de cela une expérience d'émotion, recherchant du surnaturel. Les médias, d'ailleurs, ne facilitent pas les choses. Parce que les médias, aujourd'hui, les films, apportent des solutions rapides et simples à des problèmes compliqués. Et la manière dont les médias apportent des solutions rapides et simples, c'est la manière, finalement, copiée de l'Évangile. Vous retrouvez dans les médias le thème de la lutte entre le bien et le mal, de la grande controverse. Vous retrouvez ce thème-là dans les films d'aujourd'hui, auxquels on va apporter des solutions rapides, simples, où le bien va triompher grâce à des expériences émotionnelles et surnaturelles. Si bien que le monde d'aujourd'hui, habitué à ça, va rechercher dans le monde religieux la solution au grand conflit avec une expérience émotionnelle et surnaturelle. Et c'est la raison pour laquelle on court aujourd'hui après toutes ces choses, sans avoir envie d'étudier la parole de Dieu, parce qu'un film est beaucoup plus passionnant. Et quand on sature son esprit avec les films d'aujourd'hui, la Bible est terriblement ennuyeuse. Alors on n'est pas enclin à étudier. Et c'est prévu comme ça parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ainsi que l'ennemi cherche à fabriquer dans le monde d'aujourd'hui une fausse foi. Cette foi animée par un autre esprit conduit à un faux réveil. Et la Bible nous avertit de la venue des faux réveils. Regardez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Vous connaissez le contexte de ce chapitre. J'aimerais lire le verset 13 avec vous. Il est question là d'une bête et il est dit à son sujet, « Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Faire descendre le feu du ciel, allusion aux manifestations du Saint-Esprit, à la Pentecôte, allusion à ce que Élie avait vécu sur le mont Carmel, où il avait provoqué un véritable réveil dans le peuple, un retour à Dieu, des manifestations contrefaites de l'action du Saint-Esprit, faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes, et par de grands prodiges. Mais le verset suivant est intéressant aussi. Le verset suivant continue cette même idée et dit, Apocalypse chapitre 13, verset 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Quel est l'outil de la séduction que le diable utilise pour s'accaparer l'attention du monde? Les prodiges. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, les miracles semblent être la clé pour indiquer l'authenticité de leur christianisme. Si vous n'avez pas parlé en langue, si vous n'avez pas vu des miracles, si vous n'êtes pas capable de faire des miracles, s'il n'y a pas des miracles évidents dans votre Église, c'est que le Saint-Esprit n'y est pas. Pourtant, je découvre dans le livre de l'Apocalypse qu'à la fin des temps, les prodiges, les miracles seront l'outil de la séduction du diable pour attirer à lui le monde entier. Prenez par exemple un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16, le verset 14, où nous retrouvons finalement le même stratagème. Apocalypse chapitre 16, le verset 14. Il y a ici différents symboles, il est parlé des grenouilles et il est dit « Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Ce sont des esprits de démons. Et que font-ils? Des prodiges, des miracles auprès des grands de ce monde pour les rassembler. Quel est l'outil de rassemblement que le diable utilise pour rassembler avec lui tous ceux qu'il a gagnés? Des prodiges. Regardez un petit peu plus loin, encore dans l'Apocalypse au chapitre 19, ce qui est dit au verset 20. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Il est écrit ceci. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Les prodiges par lesquels il avait séduit. Les prodiges vont être le moyen de la séduction dans le monde, le moyen de rassemblement des forces de l'ennemi. L'Apocalypse nous prévient par conséquent que les prodiges seront à la fin des temps l'outil d'un faux réveil et d'une fausse foi. Tout ce que Dieu fait, l'ennemi le contrefait. Et je crois qu'il y a moyen de se réjouir, parce que si nous sommes avertis qu'il va y avoir à la fin une contrefaçon de la foi, une contrefaçon du réveil, c'est parce qu'il y aura aussi à la fin un vrai réveil et une vraie foi. Notre rôle de chrétien, notre rôle de chrétien attaché aux Écritures, va être de comprendre quels sont les véritables éléments constructeurs de la foi et du réveil, pour ne pas être piégé par les contrefaçons. S'il y a des contrefaçons, il y a aussi le vrai. Et nous sommes aussi avertis que le Seigneur va opérer le vrai. Mais évidemment, pour que l'impact du diable soit suffisant dans le monde, il faudra que la falsification arrive quand? Avant ou après? Avant. La falsification arrivera donc avant. L'expression d'une fausse foi dans le monde va arriver avant. L'expression d'un faux réveil va arriver avant la manifestation du vrai réveil que Dieu lui-même va provoquer par l'action de son esprit. Dans le livre « Tragédie des siècles », je lis ce paragraphe. « Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein du peuple un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut. Alors de nombreuses âmes sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. » Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a quelque part, dans le temps qui vient devant nous, un vrai réveil. Vrai réveil, conclusion d'une vraie foi, d'une véritable étude de la parole de Dieu. Mais je lis un peu plus loin. « Pour enrayer cette œuvre, l'ennemi des âmes en suscite des contrefaçons, donnant l'impression que la bénédiction de Dieu est répandue sur les églises qui l'égarent. De grands réveils sembleront se produire et des multitudes attribueront au Seigneur des choses merveilleuses dues à un tout autre esprit. déguisé sous le manteau de la religion, Satan tentera d'étendre son influence sur tout le monde chrétien. Cette contrefaçon, nous le comprenons, va précéder la véritable action de Dieu parmi son peuple. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser séduire par les séductions du diable et par ses contrefaçons. Nous avons depuis des années étudié sa parole. Est-ce que nous ne trouverons pas dans sa parole les moyens de déceler les falsifications? Est-ce que nous aussi nous avons besoin de tomber dans les solutions rapides et simples en cherchant l'émotionnel et le surnaturel? Est-ce que nous avons besoin de cela dans l'Église pour avoir l'impression que le Saint-Esprit a fait quelque chose? Le Seigneur nous rappelle que l'action du Saint-Esprit produit autre chose que ce que le monde cherche aujourd'hui. Reprenez par exemple le livre des Actes au chapitre 2, où nous avons là cette manifestation particulière du Saint-Esprit que nous appelons la pluie de la première saison, c'est-à-dire cette manifestation de l'Esprit pour démarrer l'Église. Vous vous souvenez comment les apôtres, poussés par le Saint-Esprit, vont prêcher avec courage, eux qui quelque temps avant fuyaient par peur, alors que leur maître avait été arrêté. Les voici debout qui prêchent avec ardeur. Et les gens qui sont là reconnaissent que ces gens avaient été avec Jésus. À la fin du discours, ces gens sont touchés. Et dans Actes chapitre 2, au verset 37, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » L'action du Saint-Esprit, lorsqu'elle produit un réveil, est toujours le fruit d'un retour aux Écritures, qui produit d'abord la repentance. La repentance qui est finalement ce regret véritable d'avoir vécu dans la désobéissance. Et puis, il produit aussi la conversion. La conversion, c'est faire le sacrifice de tout ce qui gêne ma relation avec Dieu. Pas de conversion sans qu'il y ait un sacrifice. Le sacrifice de ce qui a empêché peut-être le Seigneur de m'y conduire jusqu'à aujourd'hui. Et puis, l'action du Saint-Esprit nous conduit à un engagement. L'engagement du baptême dans le cas particulier et l'engagement dans la mission de l'Église. Le Saint-Esprit a une action bien différente de celle que le monde d'aujourd'hui recherche. L'action du Saint-Esprit conduit d'abord à la repentance, puis à la conversion, puis à l'engagement. Par l'étude de sa parole et par la prière, nous aurons tout l'équipement nécessaire pour discerner les falsifications, les faux réveils, la fausse foi, celle qui ne conduit pas à l'obéissance. Cette foi qui se limite à croire qu'une conviction intérieure va obliger Dieu à m'obéir, alors qu'en réalité la foi biblique, c'est moi qui me mets à la disposition de Dieu pour qu'il fasse avec moi ce qu'il veut, quelles que soient les conséquences. Nous avons l'assurance que le Seigneur va intervenir dans son peuple, déverser son esprit avec puissance, amener son peuple à la repentance, à la conversion, et à l'engagement dans la mission. Nous avons aussi l'assurance, par sa parole, que ceux qui voudront échapper à la falsification en auront les moyens par sa grâce. Que notre foi soit la foi biblique, que notre réveil soit le fruit de cette foi, et que le Seigneur nous y conduise.